Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Hier, nous avons vu l'entrée dans l'histoire du Mont Saint-Clair. Et aujourd'hui, nous continuons cette mise en lumière de la future ville de Sète. Après la Haute Antiquité, nous allons parler du territoire sétois dans la période gallo-romaine et au début du Moyen-Âge. Avec l'installation romaine, le territoire qui va devenir la province narbonnaise connaît la mise en place de la centuriation, qui est en fait le cadastrage du territoire par les Romains, pour des raisons fiscales notamment. Si le cadastrage est évident, en tout cas les traces de ce cadastrage sont évidentes sur les rives du bassin de Thau, à Bouzigues ou à Balaruc, l'état actuel des recherches ne me permet pas de dire si le territoire sétois, le Mont-Saint-Clair, le Barou, fut cadastré. Deux hypothèses peuvent expliquer cette absence. La première est physique. En effet, la présence des gros entre la mer et le bassin de Thau d'un côté et l'étang de Frontignan de l'autre ont pu contribuer à laisser le territoire sétois à l'écart du cadastrage romain. L'autre hypothèse est la possibilité que les travaux du XVIIe siècle et du début du XXe ont contribué à faire disparaître ou, du moins, à rendre inaccessibles les éventuelles traces du cadastrage romain. Néanmoins, cette possible absence de cadastrage ne veut pas pour autant dire que le site est inoccupé. En effet, dès 1778, on trouve des traces archéologiques nettes d'une occupation romaine pérenne sur le barreau. Des bassins, des piscines, des monnaies, des fragments de colonnes sont mis au jour. Des restes d'habitations sont également découverts, dont une semble particulièrement importante et qui se composerait, d'après ces fouilles, d'au moins 5 pièces. Chacune de ces pièces était pavée de mosaïques. Ont été également découverts des fragments de colonnes en marbre. Et enfin, près de 400 pièces de monnaie ont été exhumées, les plus anciennes datant du règne d'Auguste et les plus récentes de l'empereur Constantin. Quant aux bassins mis au jour sur le barreau, ils ont permis de découvrir des restes, des coquillages, des restes de poissons. Ces bassins pouvaient donc ainsi concentrer les éléments de la conserverie des Romains sur place, poissons séchés, garums, etc. Sans oublier la récolte du sel. La pratique de la pêche par les habitants du Barou dans l'Antiquité est donc attestée non seulement par ces restes, mais par de nombreuses découvertes d'hameçons, d'aiguilles, de poids de filets et de navettes en bronze qui servaient au remaillage de ces 10 filets. Cette activité est à mettre en lien avec les monnaies découvertes, dont l'immense majorité date de Néron et vont jusqu'à Constantin, en tout cas pour leur grande majorité. Le nombre de ces pièces peuvent permettre d'envisager que la pêcherie du Barou avait une production semi-industrielle pour l'époque, destinée au commerce. Commerce qu'il faut lier à la vitalité des échanges entre les rives des étangs et l'arrière-pays sétois. Cela nous permet d'affirmer, avec un peu de prudence certes, que la pêche était la première activité économique du Barou, ce qui justifie un habitat pérenne et conséquent. Cet habitat pérenne est confirmé, en outre, par la découverte, au niveau de la place des Mouettes, actuelle, d'une nécropole d'une vingtaine de tombes et qui datent tous du début du 5e siècle. Avec le Moyen-Âge, on ne note pas d'évolution démographique, ou plutôt d'évolution urbaine sur le Mont-Saint-Clair. Alors que partout dans le Languedoc, les hommes et les femmes ont tendance à se regrouper en village, sur le Mont-Saint-Clair, l'habitat reste dispersé et garde cet aspect jusqu'au XIIIe siècle. Pendant le Moyen-Âge, on peut affirmer deux choses concernant le territoire de la future ville de Sète. La première est que le Mont-Saint-Clair et ses environs, proches, sont restés des lieux de pacage pour les troupeaux, de chasse, de pêche et de cueillette, sans oublier un lieu de la récolte du sel. L'autre élément est la querelle acharnée pour la possession du Mont-Saint-Clair que se livrèrent les moines d'Agnane et l'évêque d'Agde, l'objectif étant le contrôle des ressources. Les moines avaient pour eux, pour justifier leur possession, plusieurs cartulaires carolingiens et l'évêque d'Agde avait, lui, entre ses mains, une donation du roi Charles le Chauve. Donation qui s'avéra avec le temps un faux grossier. Les deux parties, finalement, finissant avec de multiples chicaneries par se répartir taxes et droits sur les activités du lieu. Plus tard, ce sera surtout avec les consuls d'Agde que les évêques successifs justement d'Agde continueront à ferrailler. L'objet du conflit étant une définition des droits et obligations sur le territoire du Mont-Saint-Clair. Enfin, au XIIIe siècle, les évêques d'Agde seront toujours, pour le Mont-Saint-Clair, en conflit, mais cette fois-ci avec le roi d'Aragon, et qui est accessoirement seigneur de Montpellier. Ce dernier avait reçu en héritage par son mariage des droits et titres sur le territoire de Frontignan, et avec le temps, ces chicaneries passent au second plan parce que, effectivement, les épidémies, la guerre de Cent Ans, va ravager la région et laisser de côté l'île singulière. Il va falloir attendre les guerres de religion pour revoir le Mont-Saint-Clair à nouveau entrer dans l'histoire.
Alliance Plus.